Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous.
Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec vous.
Amen.
Nous sommes contents d'être ici ce matin pour louer Dieu, parce qu'il mérite gloire et honneur, également pour partager le message de sa parole. Nous voulons dire un grand merci et témoigner notre reconnaissance envers notre pasteur, le docteur Fortuné, qui nous a cédé la chair aujourd'hui pour pouvoir prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons lire, c'est un texte quand même relativement long ce matin, mais c'est pour répondre à notre promesse de passer au travers les rencontres de Jésus dans l'évangile de Jean. La deuxième rencontre que nous trouvons ce matin, c'est celle de Jésus avec la femme samaritaine. Alors, nous allons faire pour vous la lecture. Il dit, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta. En fait, je fais la lecture dans la version Semeur de la Bible. Jean chapitre 4, verset 1. Jusqu'au verset 42. Je suis désolé, j'ai pensé que je l'ai dit, mais j'ai des problèmes avec mes lunettes, avec mes yeux, je devrais dire. Donc, c'est pour cela. En fait, voilà. Alors, c'est Jean chapitre 4, verset 1, jusqu'au verset 42. Et je lis pour vous dans la version Semeur de la Bible. Je recommence. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis Samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père cherche des hommes qu'il adore ainsi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qu'il adore l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. » « Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu ?» ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples demandèrent entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux, regardez les champs. Déjà, les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils l'invitèrent à rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et ils disaient à la femme, « Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Amen. » Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi ce matin, devant cette parole, ô combien riche, cette parole que tu as donnée, tu as prononcée, tu as donnée à tes serviteurs pour qu'ils nous la gardent intacte et pour nous servir, Seigneur Dieu, de témoignage, pour attester que tu es vraiment réel et que tu es venu, tu as foulé cette terre pour sauver l'humanité. Nous sommes sans force ce matin, nous sommes démunis, mais nous te demandons de nous remplir de ton esprit afin de pouvoir parler pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis les cœurs et sois avec chacun de nous, ô Père. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Alors, notre sujet, c'est « Il est vraiment le Sauveur du monde. » Il est vraiment le Sauveur du monde. L'attente d'un Messie, d'un libérateur, sauveur, reste au cœur de l'Ancien Testament, depuis Genèse jusqu'à Malachie. Vous le savez, en effet, dès Genèse 3:15, l'Éternel va dire au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. » Et en Deutéronome 18, verset 15, il est écrit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, pardon, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Au verset 18, il est dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et nous pourrions multiplier les versets jusqu'à Malachie, en passant par les psaumes, les prophètes, etc., pour montrer cela. En Malachie 3, verset 1er, justement, il est dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Le but de l'évangile de Jean est de montrer que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Voilà pourquoi l'évangéliste va trier sur le volet ses récits pour prouver que Jésus est le Christ et pour porter ses destinataires à croire en lui pour avoir la vie. Dans cette scène, nous voilà devant un Jésus qui met de côté les tabous, qui met de côté les préjugés vis-à-vis des catégories rejetées de la société. Il va non seulement aborder une femme, mais une Samaritaine, une dont le parcours n'est pas nécessairement reluisant. Et c'est à elle que Jésus va faire l'une de ses plus importantes déclarations. Vous conviendrez que le texte que nous avons lu est assez long, alors nous ne pouvons pas faire une analyse détaillée des versets ni de tout le passage. Nous allons nous contenter de l'essentiel. Alors, comme plan de lecture, nous proposons d'abord les circonstances de la rencontre, versets 1 à 3. La rencontre, c'est le plus gros morceau, là, à partir du verset 4 jusqu'au verset 25. Le Messie se révèle au verset 26, le témoignage de la femme, du verset 27 au verset 30, et conviction et conversion des Samaritains. D'abord, les circonstances de la rencontre, le Messie se révèle, le témoignage de la femme, conviction et conversion des Samaritains. Les circonstances de la rencontre. Alors, nous l'avons lu et nous ne passerons pas plus de temps là-dedans. Donc, on voit ici que Jésus, avant sa rencontre, il était conscient qu'il pouvait y avoir rivalité entre ses disciples et ceux de Jean-Baptiste. Donc, il était conscient des rivalités parce que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc, il pouvait y avoir opposition. Et s'il y a rivalité, s'il y a opposition, c'est l'ennemi commun qui allait en bénéficier, à savoir Satan. Alors, pour réduire les risques, Jésus a pris la décision. Il a décidé de retourner en Galilée. Donc, il a décidé de retourner, de monter au nord, parce que Galilée est plus au nord par rapport à la Judée qui est située au sud. Si vous regardez une carte d'Israël, facilement vous allez voir ces choses. Maintenant, passons à la rencontre. Le texte nous dit, à partir du verset 4, il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar. Donc, ce n'est pas une condition géographique ni politique qui poussait Jésus à passer par la Samarie. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de route, ce n'est pas parce que c'était désertique ou c'était impossible, non. Le texte nous dit qu'il fallait. Probablement, son passage s'inscrivait dans le plan providentiel de Dieu. Arrivé à Samarie, dans une ville nommée Sichar, eh bien, le texte nous dit, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, là se trouvait le puits de Jacob, selon les versets 4 à 6. Donc, c'est le champ que Jacob avait acheté pour 100 pièces d'argent, sans qu'hésita, à son retour de Padan Aram, selon Genèse chapitre 33, versets 18 et 19, alors qu'il fuyait la colère de son frère Ésaü. Alors, vous savez que il y avait une mésentente, il y avait un conflit entre Ésaü, et son frère Jacob, et pour apaiser la colère de son frère Ésaü, sa mère lui a demandé, la mère de Jacob lui a demandé d'aller passer un certain temps chez ses parents. Et arrivé là-bas, eh bien, à son retour, donc il y a passé 20 ans, ok, chez son oncle Laban, et en retour, à son retour, c'est là qu'il a acheté ce champ-là. Et c'est ce champ que Jacob a acheté et qu'il a donné à Joseph juste avant sa mort, selon Genèse chapitre 48, verset 22. Et selon nos recherches, ce puits existe encore aujourd'hui et il a une profondeur d'environ 30 mètres. Donc, c'est encore quand même très profond et c'est un puits qui existe encore aujourd'hui. Ceux qui ont eu la chance d'aller en Israël, sûrement ont visité, sûrement ont bu de l'eau dans ce puits-là jusqu'à présent. Le texte parle de la sixième heure. Dans la Bible semeur, donc il explique sixième heure, ça c'est midi. Dans la version seconde, qui est une version plus littérale, c'est indiqué c'est la sixième heure. Parce que en ce temps-là, les gens ils comptaient à partir de 6 heures le matin. Donc 6 heures le matin, c'est la première heure. Donc de 6 heures jusqu'à midi, donc c'est 6 heures, pardon. Et quand il parle de 9e heure, donc c'est 3 heures de l'après-midi. Alors quand le texte dit que on a arrêté Jésus, c'était la 9e heure, ben c'était vers 3 heures de l'après-midi. Alors Jésus était fatigué au verset 6. Cela prouve qu'il était 100% humain. Fatigué, mais bien disposé, comme on le verra. Au verset 7, nous lisons une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Donc, dans ce verset, nous voyons plusieurs éléments inhabituels. Tout d'abord, comme premier élément inhabituel, c'est surtout tôt le matin ou vers le coucher du soleil que les jeunes filles en groupe vont puiser de l'eau pour échapper à la chaleur du jour. Genèse 24, verset 11, on le voit très bien, quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac, eh bien, quand il est arrivé vers le coucher du soleil, c'est là que les jeunes filles en groupe étaient venues pour puiser de l'eau, et c'est à ce moment-là qu'il a fait la connaissance de Rebecca, qu'il a ramené à Isaac, son maître, etc., etc. Donc, et ceux qui sont familiers avec les campagnes haïtiennes, eh bien, savent que cette tradition existe encore aujourd'hui. Être toute seule en plein midi montre l'état d'isolement de cette femme, étant donné sa situation sociale. Deuxième élément inhabituel, c'est Jésus qui aborde la femme. Inhabituel parce que pour un homme juif, surtout un maître juif du premier siècle, ne s'adresse pas à une femme en public. Il n'était pas question qu'un homme juif, un maître juif surtout, s'adresse à une femme en public. Et il y a des gens qui disent même si c'était sa femme, donc c'était contre-indiqué de le faire. Et surtout pas à une femme samaritaine. Troisième élément inhabituel, Jésus demande à la samaritaine d'utiliser son seau. Donne-moi à boire. Puisqu'il n'avait rien, cela suppose qu'il voulait utiliser le seau que cette femme-là utilisait pour pouvoir boire de l'eau. Alors les Juifs, surtout les plus stricts, considéraient que tout objet manipulé par un Samaritain devenait impur et rendait cérémoniellement impur tout juif qui le toucherait. Donc ça, c'est un troisième élément inhabituel que nous trouvons dans le texte. Mais alors, comment expliquer l'animosité? Comment expliquer la haine, l'hostilité entre juifs et samaritains? C'est expliqué très clairement à cause de leur désobéissance, à cause de leur mépris de la loi de Dieu. Et ceci après plusieurs avertissements, eh bien l'Éternel a livré 10 des 12 tribus d'Israël qui formaient ce que les historiens appellent le royaume du Nord. Eh bien l'Éternel les a livrés entre les mains des Assyriens. Les Assyriens les ont déportés, ils ont déporté les Juifs les plus aisés et les ont remplacés par des étrangers. Ces Juifs qui étaient restés au pays, eh bien ils se marièrent avec ces étrangers et adoptèrent une partie de leur culture, de leur religion. Selon 2 Rois chapitre 17, verset 25 jusqu'au verset 41. Après l'exil, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, les Juifs qui revinrent au pays, ils considérèrent ces gens, donc les gens de la région de Samarie, non seulement comme des rebelles politiques, mais comme des métis dont la religion était souillée, selon Carson. C'était pour eux des gens impurs. Et qui plus est, quand Esdras et Néhémie ont reçu l'ordre de Darius pour aller reconstruire le temple, eh bien, pendant la reconstruction, les Samaritains leur ont offert leur aide et les Juifs ont refusé. Voilà pourquoi les Samaritains, eux, ils vont aller construire leur temple sur le mont Garizim et les Juifs vont construire leur temple à Jérusalem. Et juste pour votre information, les Samaritains ne considèrent pas toute la Bible comme étant canonique, donc tout l'Ancien Testament, parce que c'est qui disposait. C'est seulement le Pentateuque qu'ils considèrent comme canonique. Pour eux, c'est Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les autres livres, les Samaritains ne les considéraient pas ou ne les considèrent pas comme étant canoniques. Donc, leur relation était pas mal tendue. Et même au niveau du Nouveau Testament, quand Jésus et ses disciples voulaient passer par le territoire de Samarie, ils ont refusé, les disciples ont demandé à ce que du feu tombe sur eux, etc. Donc, c'était vraiment difficile entre eux. Donc, ça explique l'étonnement de la Samaritaine devant la requête de Jésus. Donc, en disant « Comment tu es juif et tu me demandes à moi qui suis Samaritaine ?» Comment est-ce possible que tu t'es adressé à moi? Alors, mais par-dessus tout, cela montre qu'elle n'avait vraiment pas compris la dignité de son interlocuteur. Elle n'avait pas compris que, loin d'être souillée par ce qui est impur, Jésus sanctifie tout ce qu'il touche ou tout ce qui le touche. Donc, elle pensait qu'en utilisant son seau, en utilisant le seau avec lequel elle puisait de l'eau, eh bien, Jésus allait être cérémoniellement impur, ne sachant pas que c'est Jésus qui sanctifie, c'est Jésus qui rend pur tout ce qu'il touche. Un exemple bien simple, alors qu'il se rendait chez un nommé Jairus, chef de la synagogue, pour aller guérir sa fille de 12 ans, eh bien, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, c'était une femme impure au plus haut point. Et cette femme a touché Jésus. Automatiquement, sa perte de sang s'est arrêtée. Selon Matthieu chapitre 9, verset 20, en descendant de la montagne, après son célèbre discours, Jésus, il va rencontrer un lépreux qui le supplia. Le lépreux, il ne pouvait pas s'approcher. Il va supplier Jésus en disant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me purifier, me guérir. Et Jésus va toucher le lépreux. Et aussitôt, il fut guéri de sa lèpre. À l'instant même, le texte nous dit, il fut guéri de sa lèpre. Selon Matthieu chapitre 8, verset 3. Donc on voit, Jésus n'avait pas de problème de transgresser les tabous sociaux, religieux de son époque. Et face à l'étonnement de la Samaritaine, face à sa remise en question de la demande de Jésus, eh bien, Jésus va tenter de renverser la situation parce qu'il a un but. Son but, c'est de présenter la bonne nouvelle, c'est de présenter l'évangile à la femme en passant par l'eau, en essayant de lui montrer toutes sortes de choses, elle n'a pas toujours compris. Mais elle va essayer de renverser la situation, il va essayer de piquer sa curiosité, non seulement sur sa personne, mais sur ce dont il est capable. Au verset 10, nous lisons, « Jésus répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Une déclaration importante, une déclaration extrême. Si tu savais à qui tu parles, c'est au contraire toi qui m'aurais demandé de l'eau. Au début de la conversation, Jésus était celui qui avait soif et la femme samaritaine, celle qui avait l'eau. Maintenant, Jésus semble détenir une source d'eau vive et la femme samaritaine l'a soifée. Mais la Samaritaine est encore confuse, elle n'arrive toujours pas à saisir la réalité spirituelle à laquelle Jésus fait référence. Jusqu'ici, elle est fixée sur une eau littérale. Vous vous rappelez de Nicodème de l'histoire précédente, du récit précédent, où malgré toutes les illustrations, Nicodème était encore fixé sur quelque chose de littéral. Il ne comprenait pas. C'est encore arrivé à cette femme. Elle n'avait pas encore compris. Elle était fixée sur une eau physique. Elle regardait à Jésus qui n'avait pas de seau pour puiser de l'eau et ne voit pas encore que, non seulement que l'eau que Jésus peut lui donner est beaucoup plus efficace que cette eau physique, mais que Jésus est beaucoup plus grand que Jacob. Parce que la question qu'il va lui poser, si on regarde la question, elle est à la forme, surtout dans la Bible semeur, elle est à la forme interrogative. Une question à la forme interro-négative, pardon, eh bien, ça demande une réponse négative, ça suggère une réponse négative. Alors, il va lui dire, c'est quel verset? Il dit, « Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, n'est-ce pas? » Donc, ne me dis pas que tu es plus grand que Jacob. Donc, elle s'attendait à une réponse négative. Pourquoi? Parce que c'est pas comme aujourd'hui. Dans cette culture ancienne, les vieux avaient plus d'importance que les jeunes. Plus t'es vieux, plus t'as de l'âge, plus t'as de l'expérience, plus que t'es grand. C'est comme Abraham était plus grand qu'Isaac, Isaac plus grand que Jacob, et ainsi de suite. Donc, arrivé sur Jésus, par rapport à Abraham, par rapport à Jacob, mais la femme s'attendait à ce que Jésus soit beaucoup plus petit. Quand je parle de petit, je parle pas de grandeur physique, je parle d'en termes d'importance, en termes de capacité ou en termes d'importance, si vous préférez. C'est pas comme aujourd'hui où les petits jeunes, c'est les rois du monde. Non, dans ce temps-là, les vieux avaient quand même beaucoup, beaucoup d'importance. Aujourd'hui, ben on voit les vieux comme ici. Ben en fait, les gens disent c'est parce qu'ils sont riches, ils sont dans des maisons de retraite, mais j'en ai vu un que j'ai croisé qui se plaignait en disant qu'il avait 2 enfants, mais ça faisait 14 ans qu'il ne les a jamais vus. Mais il venait, en fait, je ne veux pas généraliser, il venait simplement, comme il y a quelqu'un d'autre qui me disait, bien, pour s'assurer que quand le vieux il meurt, bien, qu'il puisse bénéficier des choses, etc., etc. Alors, revenons à notre histoire. Alors, Jésus parlait de réalité spirituelle. Quand il parlait de l'eau, de cette eau vive, il parlait de réalité spirituelle, puisqu'en Ésaïe chapitre 1er, versets 16 et 18, comme en Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25, l'eau annonce la purification. Au verset 25, d'Ézéchiel 36, il est écrit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc, il faisait référence à la soif de Dieu de tout être humain, au salut qu'il offre dans toute sa plénitude et gratuitement. En Ésaïe 55, verset 1er, il est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. » Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. tout comme la Samaritaine bien-aimée, pour comprendre notre besoin du salut, il faut comprendre deux choses. La Samaritaine ne pouvait pas comprendre et encore aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre. Pour comprendre le besoin du salut, il y a deux choses qu'il faut d'abord comprendre. D'abord, c'est la réalité du péché. Ensuite, la réalité de Jésus comme sauveur du monde. Et c'est ce que Jésus va tenter de faire dans un ultime effort aux versets qui suivent. Versets 16 à 19, nous lisons. « Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. »« Je ne suis pas marié, lui répondit-elle. » « Tu as raison de dire « je ne suis pas marié ». En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. » « Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. » « Je le vois, tu es un prophète. » Ici, Jésus va lui montrer qu'il connaît son passé, qu'il connaît son présent, qu'il a une connaissance détaillée de sa vie. Ça nous fait penser au psaume 139, où David va dire, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me couche, et tu connais toutes mes pensées. Même des pensées qui ne me sont pas encore venues à l'esprit, tu les connais, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Alors, ce que la femme va forcer, elle va être forcée à reconnaître, « Vous avez raison. » Il dit que je vois que tu es un prophète. C'est un aveu. Je vois que tu connais ma vie. Je vois que c'est seulement un prophète, seulement quelqu'un qui est inspiré de Dieu, qui peut savoir ces choses. Donc je te l'accorde. T'es un prophète. Tu connais ma vie. Jésus va lui demander en quelque sorte. Mais vous avez eu 5 maris. Est-ce qu'ils sont tous morts? Sinon, vous vivez dans l'adultère. Ou encore, en acceptant de vivre avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas marié, mais vous êtes en concubinage, va chercher ton mari. Aujourd'hui, le concubinage est accepté à n'importe quel âge. Mais alors, ce n'était pas le cas et ce n'est toujours pas dans le plan de Dieu. La femme va l'admettre encore une fois au verset 19. Alors, moi, j'ai fait une analyse en disant, quand Jésus lui a dit ça, c'est juste pour attirer son attention, pour lui dire, tu as déjà eu 5 maris et maintenant tu vis avec quelqu'un avec lequel tu n'es pas marié. C'est à toi de voir ça. Comment tu comprends ça, toi? Et la femme va profiter de la présence de Jésus pour poser des questions. Donc, je ne rentre pas dans toute l'analyse au niveau de ces versets. Et elle va finalement voir le lien. Et elle va poser une question à Jésus en disant, comme je vous ai dit tantôt, nous adorons sur cette montagne, vous adorez sur l'autre montagne. C'est quoi la vérité? Où est-ce que je dois m'en tenir? Et Jésus va répondre rapidement en lui disant, tout d'abord, Jésus va lui dire que le problème c'est pas d'adorer sur telle ou telle montagne. Le problème c'est pas d'adorer à tel ou tel endroit, parce que le Dieu de la Bible, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme va vouloir encore plus de réponses à ces questions. Il va dire que oui, je comprends qu'est-ce que tu me dis, mais le Messie, parce que au niveau du Pentateuch, il est indiqué, comme j'ai lu les versets au Deutéronome 16, verset 15 et verset 18, que Dieu va susciter un prophète parmi ses frères, parmi leurs frères juifs, et ce prophète-là va leur enseigner toute la parole de Dieu et il va les écouter. Les Samaritains avaient cette attente de ce prophète, de ce Messie qui allait venir. Et c'est là que finalement, il va avoir le lien quand Jésus va lui dire, eh bien, ce prophète que vous attendez, je suis ce prophète-là, je suis le Messie. Je suis celui qui devait venir. Je suis le sauveur. C'est moi. Et voyant que Jésus connaît tout de sa vie, voyant que Jésus est le Messie que tout le monde attendait, eh bien, cette femme va admettre. Et là, on va assister à un autre revirement de la situation. Cette femme qui voulait éviter le regard. Donc, on voit le Messie se révèle au verset 26, et on voit que cette femme qui voulait éviter le regard des gens est celle qui va aller vers les gens. Au verset 27, qu'est-ce que nous avons? Sur ces entrefaites, les disciples revinrent, ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Encore une fois, c'était contre-indiqué qu'un homme parle à une femme en public, mais aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu ?» ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Non seulement ils n'osaient pas poser de questions à la Samaritaine, parce qu'en posant une question à la Samaritaine, eux autres aussi se mettraient comme en position inhabituelle, parce qu'ils ne devaient même pas, eux, poser la question à la Samaritaine, mais ils n'osent pas non plus poser la question à Jésus. Alors la femme laissa là sa cruche et se rendit à la ville, et voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ. » Donc, elle qui voulait éviter le regard des gens est celle qui va vers les gens, celle qui va au village, et c'est elle qui va laisser sa cruche pour aller trouver les gens et leur parler de Jésus. Loin de fuir les regards, elle s'en va annoncer la bonne nouvelle. Elle était si enthousiaste que les gens crurent en son témoignage, que les gens crurent en Jésus à cause de son témoignage. Et en dernier lieu, quand on regarde le témoignage de la femme, les versets 27 à 30, il dit, alors la femme laisse sa cruche, se rendit, etc. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ. Et à la fin, conviction et conversion des Samaritains, les versets 39 à 42, nous voyons que au verset 39, il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils l'invitaient à rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles et il disait à la femme « Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Alors, quand Christ nous appelle, eh bien, il y a des changements qui s'opèrent en nous et ces changements-là sont évidents. Nos priorités changent. Jésus dira à ses disciples, parce que ses disciples pressaient de prendre de la nourriture, il leur dira « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture est d'annoncer sa parole. Pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Tout d'abord, l'on voit que Jésus ne fait exception de personne. Jésus n'est pas lié par nos préjugés. Il n'est pas lié par nos tabous, par nos discriminations basées sur la classe sociale, basées sur la couleur, basées sur le sexe, l'origine ethnique ou autre. Il va révéler sa messianité à une femme dont la morale ou la moralité laisse à désirer. Et c'était révolutionnaire pour son temps, pour son époque. Par ceci, il nous montre que l'offre du salut est universel. Donc, il ne fait exception de personne, il s'adresse à n'importe qui, ça nous montre que l'offre du salut est universelle. Et c'est pour nous une belle leçon de profiter de toutes les occasions qui s'offrent à nous pour annoncer l'Évangile. Ensuite, on remarque qu'au cours de son témoignage auprès de la Samaritaine, Jésus a fait preuve de compassion, mais il était aussi très patient. Il ne l'a pas brusqué. Il a été patient avec cette femme, juste pour essayer de lui montrer, pour pointer cette lumière qu'il représente, pour que la femme puisse regarder à elle, regarder à son intérieur et regarder son besoin de changement, son besoin qui est le plus grand, qui est le besoin fondamental. à nos amis visiteurs, que vous soyez nouvellement visiteurs ou que vous soyez un habitué, j'aimerais que vous saisissiez l'offre du salut de ce matin, tout comme la Samaritaine. Parce que de même que chacun de nous a un jour pour naître physiquement et un jour pour mourir, eh bien nous avons tous un jour de salut, un jour pour naître spirituellement. Et le temps du salut, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi si vous entendez la voix de Dieu, la voix du Seigneur vous parler ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Ne laissez pas non plus la timidité vous paralyser, vous barrer l'accès au salut. Décidez maintenant d'avancer à la rencontre du Seigneur pour faire la paix avec lui. C'est important. On voit que la priorité de la Samaritaine a changé du tout au tout. Elle avait laissé sa cruche. Elle est partie rendre témoignage. Et Dieu a béni son témoignage et les gens ont cru à cause de son témoignage. Ce matin, Dieu vous invite à un banquet, à un festin spirituel où tout est gratuit. Le pardon des péchés, la réconciliation avec son Père, le salut, la paix intérieure et la vie éternelle. Comme les Samaritains ce matin, alors réalisez que Jésus est réellement le Sauveur du monde. Ils étaient convaincus que Jésus était le Sauveur du monde. Un Sauveur dont nous avons tous besoin, que nous soyons le Nicodème du récit précédent, avec toute notre instruction, un homme puissant, respecté, orthodoxe, ou que nous représentions la Samaritaine de ce récit, une laissée pour compte. Une femme peu instruite, sans influence aucune, eh bien nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. À mes frères et sœurs dans le Seigneur, réalisez le privilège de nous associer au Seigneur Jésus-Christ pour l'avancement de son règne. Dieu peut se passer de n'importe qui. J'ai appris dans une formation sur l'islam hier qu'il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent au Seigneur par des visions, par des rêves. Dieu leur parle directement. Dieu leur parle directement. Mais ce qu'il veut faire, il veut nous associer à cette œuvre grandiose, à cette œuvre merveilleuse. Il veut que nous soyons des semeurs joyeux. Comme il est dit dans Ésaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alors, ne laissez pas surtout notre attitude nous empêcher de témoigner ou d'inviter quelqu'un en disant, ah, lui-là, il ne se convertira pas, il ne se convertira jamais. Pourquoi? Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si c'était pour les Juifs, si c'était pour les disciples, cette femme samaritaine ne verrait jamais le salut parce que eux ne l'aborderaient jamais. C'était pour eux un cas perdu, peine perdue, il n'y a plus rien à faire avec elle. Mais Jésus nous montre que l'accès du salut, c'est quelque chose qui est possible pour tous et chacun, en tout cas l'expression, pour tout le monde, et que nous ne devons pas faire exception de personne en ne pas présentant l'Évangile à quelqu'un sous aucun prétexte. Alors, nous espérons que la lecture de ce matin, non seulement va encourager ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur à le faire, mais à ceux et celles qui ont cette mission d'inviter, de témoigner, de continuer à le faire, que le Seigneur vous bénisse.